Pane nostro, dorime, dorime.
Watch me, pretty woman, walking down the street.
Mon capitaine, mon capitaine.
Petite huître, petite huître.
Mais les petites huîtres ne répondent pas.
So may we start. So may we start.
Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Radio G. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure de cinéma partagé tous ensemble. Alors aujourd'hui, il y a vous, chers auditeurs, il y a vous, chères auditrices, il y a moi, Ninon, et il y a mes complices du jour qui sont Kevin et Camille.
Et bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça très va bien, plutôt
très
bien.
Ça va bien. Eh ben écoutez, super. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent régulièrement, pardon, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On vous a beaucoup teasé hein, sur nos réseaux, donc il n'y a pas trop de suspense. C'est un peu une spéciale Festival de Cannes, si on peut dire. On va vous parler de trois films présentés à Cannes cette année et actuellement en salle. Je parle de Histoire parallèle, un drame à la française, L'abandon, qui revient sur l'histoire de Samuel Paty, et enfin, pour la touche étrangère, Autofiction, le dernier film de Pedro Almodovar. Et on finira cette émission, bien sûr, sur un petit point palmarès, du Festival de Cannes. Comme vous le voyez, le programme est assez dense aujourd'hui, alors je vous propose de commencer tout de suite. Restez bien avec nous sur le 101.5 FM de Radio G, parce que Clap and Chat, épisode 18, c'est parti. Moteur.
Action. Clap and Chat sur Radio G.
101.5 FM.
Forcément, si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant. Camille et moi avons eu des accréditations pour aller à Cannes cette année au Festival de Cannes.
Ouais.
Mais avant de, revenir sur cette histoire, on va mettre un peu de contexte quand même. Mardi 12 mai, s'est ouvert le Festival de Cannes, le festival le plus prestigieux du cinéma en France, carrément, et qui rayonne à l'international, le fameux Festival de Cannes pour sa 79e édition. Il se déroulait sur 2 semaines comme tous les ans, donc il s'est fini ce samedi, là, il y a quelques jours, le samedi 23. Et dans l'épisode précédent de Clap and Chat, on avait parlé de La Vénus électrique, qui était son film d'ouverture. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le podcast sur les plateformes d'écoute. Cette semaine, on revient sur ce qui s'est passé à l'intérieur du festival. Et avant ça, Camille, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival, de cette expérience que toi et moi, on a vécue avec ces accréditations?
Eh bien, c'était super, parce qu'on est parti d'Angers le jeudi 14 mai, donc le jour de l'Ascension. Et on est tombé en panne sur la route à Clermont-Ferrand, donc on est rentré et on n'a pas pu aller au Festival de Cannes.
Voilà, toute notre expérience de Cannes s'arrête à Clermont-Ferrand, c'est ça.
Ce sera pour l'année prochaine, pour les 80 ans.
Oui, c'est ça. Donc on a été rapatriés à Angers et nous n'avons pas pu assister à ce Festival de Cannes. Ne vous inquiétez pas, on a quand même suivi le festival de près. Et comme Camille vous l'a dit, pas de festival pour nous cette année, mais on va retenter l'année prochaine et on essaiera d'y aller. Oui. Et on essaiera d'y aller encore plus en force. Ce serait chouette que plus de monde de l'équipe soit là.
Peut-être pas en voiture.
on va voir. Si vous avez des astuces pour nous, n'hésitez pas. Si vous connaissez des gens sur Cannes qui peuvent nous accueillir aussi, n'hésitez pas. Ce sera tous les bons plans sont bons à prendre.
Avec d'autres voitures que celles de Camille.
Avec d'autres voitures. Mais on s'en sortira, c'est pas grave. Mais bon, ce n'est pas un contretemps qui va arrêter Clap and Chat. Hein. On vous a dit qu'on vous parlerait des films à Cannes. On va vous parler de films présentés à Cannes. Et pour commencer, un film en compétition qui nous intriguait avec Camille et qu'on comptait aller voir du coup sur la croisette.
Ouais, j'avais des billets.
Ouais, on avait des billets. Ouais.
Bon, c'est pas grave.
La billetterie de Cannes.
On a eu des billets au pâté Angers.
C'est ça. La billetterie de Cannes est assez complexe et on a réussi à avoir des billets toutes les deux pour ce film, donc on est d'autant plus déçus. Il s'agit du film Histoire parallèle, nouveau film de Asghar Farhadi. Sorti le 14 mai, un film qui était présenté en compétition officielle à Cannes cette année. Et Camille, je te laisse nous présenter un petit peu le film, s'il te plaît.
Donc le film raconte l'histoire de Sylvie, une écrivaine en manque d'inspiration, qui passe son temps à observer ses voisins depuis sa fenêtre. Peu à peu, elle imagine leur vie et s'en sert pour écrire son nouveau roman. Mais lorsqu'elle engage un jeune homme nommé Adam pour l'aider dans son quotidien, enfin c'est sa
nièce
qui l'engage, la frontière entre ce qu'elle invente et la réalité devient de plus en plus floue. Les personnages se retrouvent entraînés dans une sorte de jeu entre fiction et réalité où chacun semble cacher quelque chose. Et en fait, j'imagine que c'est... je l'interprète comme ça, histoire parallèle, parce qu'on vit avec Sylvie et ses personnages, et on alterne entre la réalité et la fiction un peu. Tout est mélangé et c'est aussi un peu compliqué à suivre de temps en temps. Enfin, au début surtout, on ne comprend pas trop comment ça se passe. Moi, ça m'intrigue et c'est ça que j'ai bien aimé, justement. Pour les points positifs, je dirais que c'est une histoire intrigante. Il y a une réflexion sur l'imagination, le pouvoir de l'imagination. Et les points de vue sont intéressants parce qu'on se demande tout le temps ce qui est réel, ce qui ne l'est pas.
Ouais.
Et aussi, je voulais parler de l'interprétation des acteurs. Isabelle Huppert joue très bien son rôle, je trouve. Je l'avais vue dans La femme la plus riche du monde récemment, où je n'avais pas vraiment accroché. Je ne sais pas si c'est le personnage d'Isabelle Huppert ou si c'était son interprétation, mais je n'avais pas trop aimé. Et là, j'ai beaucoup aimé. Je la trouve très juste. Virginie Efira, c'est une actrice super forte.
Moi j'adore. Elle
arrive à partager beaucoup d'émotions avec son expression, avec ses yeux, avec elle a pas besoin de parler, elle a pas besoin de elle partage des choses rien qu'en la regardant, donc c'est fou. Et j'ai trouvé le personnage de Pierre Ninet qui est plutôt un personnage secondaire assez crédible aussi, très bonne interprétation. Pas grand chose à dire.
Je partage et je voudrais même rajouter que le film est un peu en deux parties où d'abord on suit vraiment l'histoire imaginaire et ensuite on suit l'histoire réelle de ces personnages. Et dans ce récit imaginé par l'autrice, on voit un Pierre Ninet qui est très en retenue, qui est très délicat et tout. Et on a peu l'habitude de le voir comme ça.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai beaucoup aimé, moi, cette interprétation de Pierre Ninet d'ailleurs.
Oui.
Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Ouais, ça change, c'est ça.
Cast plus cast que 5 malade. Étoiles. Là,
cast de fou.
Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel, l'apparition de Catherine Deneuve, India Air, Adam Bessa. Là, on est quand même sur...
sur un cast qui a tout, pour, cartonner a tout pour cartonner à Cannes.
Très clairement, c'est un film qui est fait pour être en compétition à Cannes.
Exactement.
On ne va pas se mentir.
Tout à fait.
Le Réal a pris la grille d'évaluation. Il a dit, il faut que je coche toutes les cases. On y est, sans aucun souci. Moi, je me suis cependant un peu ennuyé.
C'est extrêmement
Moi, j'ai parlé que du positif. Je n'ai pas encore dit mes points négatifs sur le sujet.
Parce que c'est vraiment très, très long. Quoi. Alors, effectivement, il y a des choses intéressantes sur le rapport au réel, sur la force, le pouvoir de l'imaginaire, etc. Ça, c'est très intéressant. Et on aura l'occasion d'en reparler après pour le troisième film dont on va parler aujourd'hui, d'ailleurs. Mais,
qui fait très, très référence à celui-ci, effectivement. Il est très proche l'un de l'autre.
C'est deux histoires qui se ressemblent un petit peu. Mais au-delà, effectivement, oui, alors le cast joue bien, c'est super, oui. Très intéressant de voir Virginie Efira en à bouclette, enfin pas à bouclette, mais...
Mais ça lui va super bien.
C'est très intéressant de la voir. Et tu vois, j'en parlais, je sais plus quand, mais Virginie Efira, j'ai du mal à la mettre dans des rôles... populaire, de classe populaire,
ah
etc.
Ouais
habituellement, je trouve qu'elle n'a pas du tout la prestance, le charisme, etc. Enfin, elle rayonne tellement que j'ai du mal à y croire. Dans les Braises, par exemple, ça m'avait pas, enfin, j'avais pas du tout accroché à son personnage.
Et t'avais vu Rien à perdre ? Parce que Rien à perdre, où elle jouait une mère de famille, où on lui enlève ses enfants tellement elle est dans une situation compliquée et tout ça. Je l'avais trouvée hyper cohérente.
Elle est pas vraiment. Alors, elle est dans une situation compliquée, mais qui n'est pas pour moi un sujet, le fait que ça soit de la classe populaire. Alors que dans Les Braises, c'est le cœur du film.
Oui, ok, je comprends.
Mais là, de la voir... En fait, je pense que peut-être que si elle avait été... Dans Les Braises, si elle avait été brune,
C'est physique en fait.
Oui, en fait, je sais pas.
Elle a été dans les braises. Son blond a été terni.
Il a été un peu terni.
On parle totalement d'un autre film.
D'un autre film. On parle de Virginie Efira qui est dans Histoire parallèle. Actuellement au cinéma.
Vas-y, je te laisse continuer.
Mais donc là, ouais, ça m'a pas mal plu de voir Virginie Efira comme ça. Ça lui va bien. Ça change complètement le personnage. Alors Catherine Deneuve très.
Ben ça, c'était pas très long.
La scène très courte, mais.
Mais très Catherine Deneuve.
Mais très Catherine Deneuve, effectivement. Mais voilà. Donc j'ai pas forcément beaucoup apprécié parce que c'était très long, mais je reconnais les qualités du film sans aucun souci.
Je partage totalement. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement long. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Il y a des idées scénaristiques qui sont très intéressantes, qui sont très. Très bien trouvé. La photographie est magnifique, le casting est magnifique, on ne va pas revenir dessus. La réalisation est top. Moi, hormis la longueur, ce que j'ai envie de le point négatif que je pourrais trouver au film, c'est que c'est une copie qui est presque un peu trop parfaite. Comme tu disais, c'est très, très Festival de Cannes. Ouais. C'est fait pour un festival, c'est fait pour une compétition et ça se voit. Effectivement, ils ont pris la grille en disant on a besoin de ça. Même la photographie, que je trouve magnifique, elle est cannoise. Quoi. Mmh. Enfin, donc ça marche. Et ouais, donc je trouve que
l'histoire, elle avance pas beaucoup en fait pendant le film.
Et puis on sait pas où il nous emmène en plus de ça.
Oui, c'est ça.
On sait pas où il nous emmène. Copie un peu trop parfaite.
Et le personnage de Vincent Cassel.
Globalement, moi j'ai trouvé qu'il y avait aucun personnage qui était très. Hormis peut-être le personnage de Virginie Efira, aucun personnage qui était.
Attachant.
Ils sont tous un peu toxiques en fait.
Ouais.
Oui.
Mais ça m'a pas empêché de m'attacher. Tu vois, le personnage de Pierre Niney, par exemple, je l'ai trouvé plutôt attachant, malgré le fait qu'il ait des scènes quand même dégueulasses, quoi.
Oui.
Donc voilà, histoire parallèle. Film très, très scolaire, on va dire, pour un festival comme Cannes. Histoire parallèle, je vous spoil tout de suite, n'est pas dans le palmarès de ce festival de Cannes cette année. Mais il y a plein de films, hein, donc tout ne peut pas y être. On vous invite quand même à aller le voir et vous faire votre propre avis dessus parce que Histoire parallèle, c'est toujours au cinéma actuellement. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Nous allons parler maintenant d'un autre film français qui a été présenté à Cannes cette année. Mais cette fois-ci, c'est un film hors compétition. À Cannes, il y a que la compétition long métrage, compétition court métrage. Il y a des compétitions parallèles, on y reviendra. Et il y a les films qui sont hors compétition.
Parallèle comme Histoire parallèle.
Exactement, tout à fait. Elle suit.
C'est fou.
Et donc, L'abandon de Vincent Garenc, j'espère que je prononce bien, je suis désolée, lui est présenté hors compétition. Alors L'abandon, le speech est très rapide, le film est sorti le 13 mai et c'est un film qui revient sur les derniers jours de vie de Samuel Paty qui est joué ici par Antoine Reynatz, qui est professeur d'histoire-géographie au collège et qui a été assassiné pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo en 2020. Donc c'est tiré d'une histoire vraie et le film veut être le plus proche, il l'annonce bien au début, le plus proche de ce qui s'est réellement passé.
Exactement.
Qui veut commencer à nous parler de son avis sur ce film ? Vous battez pas, hein ?
Bah, je peux commencer.
Vas-y.
J'ai beaucoup aimé le film. Parce qu'effectivement, même si c'est un film, on va dire, de fiction, même si c'est très fidèlement inspiré effectivement des événements, ça aurait pu tomber dans le documentaire, tellement c'est fidèle aux événements, etc. Et pourtant, on reste vraiment dans un film de fiction, qui est effectivement la retranscription d'un fait réel, mais on sent que c'est quand même un film de fiction et pas un documentaire sur l'événement.
Ouais, c'est ce que tu veux dire.
Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que de rester aussi fidèle tout en ayant cette posture de fiction, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. J'ai trouvé le personnage d'Antoine Reynatz. Alors j'aime toujours, je trouve les interprétations d'Antoine Reynatz. Donc je trouve que là, il a un rôle assez intéressant et j'ai bien aimé son interprétation. Cela dit, j'ai l'impression qu'il m'a manqué quelque chose pour ressentir l'angoisse ou la terreur qui allait s'abattre.
Je partage un peu.
Même si, en fait, on sait ce qui va se passer, puisque tout le monde connaît l'histoire de l'assassinat de Samuel Paty. Donc on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va terminer. Et je trouve que justement, le film est un peu timide pour recréer cette angoisse et cette pression de ce qui va se produire.
Ouais, je pense qu'on passe beaucoup de temps sur les autres personnages. c'est oui. un peu moins centré sur Samuel Paty.
Moi, je l'ai
c'est
ressenti comme ça.
C'est peut-être pour ça qu'on a, on est plus en recul, en fait, ouais. Par rapport à... Je sais pas, on le voit pas beaucoup chez lui, à la ouais, maison. Ouais, ouais. Enfin, on le voit un peu quand même, la nuit, etc. Mais je pense que si on voulait cette terreur-là... Il a pu ressentir, on n'est pas assez avec lui.
Je partage totalement ça et c'était exactement la réflexion que je me suis faite. Enfin, je me suis fait plusieurs réflexions sur ce film, mais c'était une des réflexions que j'aurais aimé le voir plus lui.
Oui.
Il n'est pas, enfin, il n'est pas personnage principal de son propre histoire, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai pour un film hommage, et c'est nécessaire d'avoir un hommage sur une personne comme ça et un incident terrible comme ça, c'est dommage de ne pas, de pas l'avoir mis vraiment au centre de son film, quoi.
Oui, on passe beaucoup, beaucoup de temps sur les vidéos, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, etc. Bon, à un moment donné, on a compris, mais on continue à parler de ça, etc. Alors qu'on pourrait, oui, on aurait pu aller plus genre, chez lui, voir un peu en dehors du collège aussi ce qui se passe, quoi.
Et toi, Cam, du coup, t'en as pensé quoi de manière générale?
Alors, là, de manière générale, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai travaillé dans un collège. Donc, il y a des choses qui ont résonné un peu en moi. Notamment le relationnel avec les élèves, etc. Et le personnage de Bachira qui a été qui est un très bon personnage, mais qu'on peut pas trop l'aimer, en fait, ce personnage.
Ouais.
Même si c'est une vraie personne, en fait, c'est c'est terrible de dire ça, mais
c'est mon deuxième point négatif, on y reviendra.
Ouais. Non, si, j'ai bien aimé, j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. On sait où on va, en fait, on sait ce qui va se passer et on anticipe un petit peu.
Ok, je reviens sur ce que tu disais sur le personnage de Bachira. Le personnage de Bachira, pour, je ne sais pas si c'est du spoil, parce que tout le monde le sait, c'est le personnage qui a un peu précipité toute cette histoire. Et, enfin, d'un petit mensonge de collégienne, c'est devenu toute une montagne, etc. Et c'est un peu le truc que j'ai eu sur ce film qui m'a un peu dérangée. Alors, je ne remets absolument pas en question ce qu'a fait Samuel Paty, ses cours, etc. Je le soutiens à 3000%. Mais j'ai trouvé que le film était très Samuel Paty le gentil, la communauté musulmane méchante.
Oui.
Alors, m'a dérangé.
C'est un peu ce que j'ai dit avec Camille en sortant la séance, c'est que il donne l'impression d'être islamophobe et etc. Ce film, et notamment parce que je trouve que parce qu'il y a énormément de familles de confession musulmane qui ont aussi apporté leur soutien à Samuel Paty parce que justement,
mais on les voit pas assez.
Et c'est ce que je disais à Camille. J'ai dit il y a deux scènes où on les voit soutenir Samuel Paty. Il y a une réunion parents-prof où il y a deux familles qui sont venues. Alors que le sujet, c'est justement qu'il y a alors ce mensonge de Bachira qui a envenimé toute une partie,
qui a allumé le feu,
c'est ça.
Et un peu dans le monde entier.
Et on a presque invisibilisé tout le soutien
d'autres
familles.
Et du coup, je trouve que le film est très clivant et très partial en fait. Et ça m'a un peu dérangé en fait.
C'est ça.
J'aurais aimé qu'on nous dise il s'est passé ça comme ça. Presque effectivement au documentaire de c'est comme ça et voilà, tout le monde, enfin un peu tout le monde a ses torts. Bachira a été prise dans l'engrenage de son propre mensonge et elle s'est laissée emporter dedans sans rien plus pouvoir faire en fait. Alors qu'elle, là, elle est diabolisée à mort.
C'est ça. Et heureusement finalement que à la fin ce soit la jeune Alma qui fasse ce discours, etc. Parce qu'elle avait elle aussi émis des réserves et des critiques à l'encontre de son professeur Samuel Paty. Et là, on voit bien que, elle a subi ce cours-là. Ils en ont parlé. Et ça s'est réglé, etc. Donc, heureusement qu'il y a ces petits morceaux-là qui viennent quand même nous dire non, le sujet n'est pas la confession musulmane face à la laïcité à l'école, etc. Machin, là.
Mais j'ai trouvé que c'était pas ça.
Le sujet, c'est une élève. Qui se terre dans son mensonge parce que, alors sans doute qu'elle veut pas froisser ses parents, etc. Machin, là. Et du coup, je pense que le propos est un peu.
Moi, j'ai trouvé ça dommage, cette partialité de l'histoire. Et c'est sorti le 13 mai. Hein, pour information, il a eu un très très bel accueil à Cannes. C'est un film qui est important. Moi, je trouve que c'est bien qu'il ait été présenté à Cannes. On le rappelle, il est toujours au cinéma. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas parce que quand même ça. On parle de plein de choses très politiques et c'est quand même très intéressant à voir.
Et enfin, parce que le Festival de Cannes, ce n'est pas juste un festival de films français, là on a parlé de deux films français, on va parler aussi d'un film international. Et quoi de mieux que de parler d'un des plus grands réalisateurs espagnols, Pedro Almodovar.
Almodovar.
Le 20 mai est sorti son nouveau film Autofiction, qui lui aussi a été présenté en compétition cette année à Cannes. Mm-hmm. Kevin, tu peux nous le présenter un petit peu, s'il te plaît ?
Donc, tu l'as dit, effectivement, c'est le dernier Pedro Almodovar qui est actuellement en salle. Et là, on a de nouveau, comme dans Histoire parallèle tout à l'heure, un peu une histoire dans l'histoire. Dans l'histoire. Enfin, là, c'est, là, on est vraiment...
C'est vrai. Donc, il y a trois niveaux. C'est ça.
Donc, on est face à un réalisateur scénariste très reconnu qui veut écrire un nouveau scénario, qui va s'inspirer un petit peu de sa vie et de celle de ses proches pour alimenter son scénario. Et en fait, c'est l'histoire, son scénario, c'est l'histoire d'une scénariste qui s'inspire de ses proches pour réaliser un film en se basant sur...
Mais bon, on est dans Inception.
Mise en abîme de mise en abîme.
C'est ça. Enfin, là, c'est, là on est au plus profond des abîmes. Donc, c'est super. Pedro Almodovar, du coup, comme pour Histoire parallèle, on ne sait pas trop où ça va, en fait.
Exactement.
Je vais commencer tout de suite par là. Je vais
voilà, vas-y, poser dans le dur.
On ne sait pas trop où ça va. C'est un petit peu lent aussi, etc. C'est beau, parce que c'est Pedro Almodovar,
c'est
donc il y a une esthétique qui est vraiment soignée. Il y a des cadres qui sont incroyables. Il y a des plans vraiment très, très chouettes.
Le travail sur la couleur,
tout à fait.
Le travail sur la couleur qui est toujours impeccable avec Almodovar.
Qu'on retrouvait d'ailleurs dans le précédent film d'Almodovar.
C'est ça, La chambre d'à côté.
Qui peut faire parfois référence à ce film-là, d'ailleurs.
J'ai l'impression qu'il aime bien filmer dans des très belles villas.
Ouais. Et il aime bien le rouge et plaisir.
Le rouge et le jaune.
Le rouge et le jaune, c'est ça. Ouais. Qu'on voyait très bien dans La chambre d'à côté et qu'on voit encore bien là. Donc vraiment, les couleurs sont vraiment très vives, etc. C'est très beau. Le casting est chouette aussi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très crédible, c'était vraiment, vraiment chouette. On l'a vu en VOST avec Camille.
Voilà, moi j'ai fait l'erreur d'aller le voir en VF.
Et, ben, je pense que, et c'est pour ça qu'on n'est pas venu avec toi, je pense. J'ai vu que c'était une séance en VF, je fais non, je pense pas.
Je préfère se lever tôt pour aller voir un film en VO.
Et, bah, au bout de 2 minutes de film, j'ai regretté, je vais pas vous mentir. C'est, la VF, elle est claquée au sol.
Ouais. Et ben, en fait, ça m'étonne pas. Ouais. Parce que je crois que j'avais dû voir des trucs sur d'autres films. Espagnol et généralement je sais pas ce qui se passe avec la VF mais ça va pas. C'est pas grave hein, mais...
Non mais moi j'étais du coup je me suis auto saoulée à aller voir ce film en VF alors que la VF elle est vraiment
t'étais dans le thème.
Ça fait très
auto
ça exactement.
La VF blague du jour.
La VF elle rend le truc hyper caricatural, hyper hyper cheap en fait, presque un peu
telenovelas.
Non, ils ont pas mis d'accent.
Okay,
mais tu vois, Rossi de Palma qui fait quand même une apparition dans le film, elle parle français, c'est pas elle qui se double.
Oui, donc
c'est dommage.
Pas.
C'est dommage.
Mais ça c'est terrible. Parce que elle parle français. Alors, oui, elle a un accent espagnol quand elle parle français.
Oui, mais bon, elle est espagnole.
Mais en fait, elle est connue, donc c'est pas très grave.
Donc j'ai trouvé ça. Et du coup, ça rend le film presque un peu télénovela.
C'est dommage parce que.
Purée, je m'en suis voulu à mort.
Parce qu'il a des qualités, le film.
Même
si effectivement, il est un petit peu long aussi, mais je pense que. C'est Inception, là, c'est mise en abîme qui rallonge les choses un petit peu trop, mais c'est dommage, la VF, je pense.
Ouais, je suis d'accord. Camille, il nous reste 2 minutes, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en as pensé ?
Je sais pas trop. Je l'ai trouvé très long.
Ouais.
Je savais pas où on allait, mais en fait, je savais où on allait, mais en fait, je savais pas vraiment où on allait.
En fait, c'est que c'est pas particulièrement long, le film est pas très...
Non, il est pas très long, mais
c'est très
plat,
monotone.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de rythme. Alors, c'est beau. C'est, en fait, il y a l'esthétique qui remonte un peu la note, on va dire. Mais puis, c'est le deuxième film que je vois en 2 jours qui est sur
des
histoires parallèles, etc. Donc, peut-être que je peux aussi un peu comparer. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ?
Il y a des beaux abdos, par contre.
Ah ouais, non, mais il est, c'est caricatural.
Ah oui, bah oui.
Bon, bref. Et puis, je reste un peu sur ma fin aussi.
OK.
Parce que je trouve qu'il manque plein de trucs.
Ouais, je peux
te rejoindre un peu. Les fins ouvertes, c'est souvent comme ça. Il manque, manque des choses.
Ouais.
Mais c'est pas un grand film pour moi.
OK, très bien.
Ça me correspond pas trop.
Ouais, mais c'est possible. Moi, j'ai trouvé que le scénario avait parfois des points d'intérêt, mais qui étaient genre de 5 minutes et qui étaient trop tardifs dans le scénario.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais,
et du coup, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même. C'est dommage.
Exactement.
Et ben voilà, Pedro Almodovar. Pour info aussi, il a eu un accueil très très clivant à Cannes.
Ouais,
ça n'a pas été dithyrambique, donc je pense qu'on est, assez raccord. Donc, Autofiction, le nouveau film de Pedro Almodovar, il n'est pas non plus
sur le palmarès de ce festival de Cannes. Vu l'accueil client qu'il a eu, ce n'est pas étonnant. Si vous voulez vous faire votre propre avis, parce que c'est toujours un film de Pablo Almodovar, c'est toujours sympa.
Oui, il y en a qui peuvent adorer.
Oui.
Et allez le voir en VO par contre. Vraiment, si vous allez le voir, si vous pouvez, on vous conseille la VO à 3000. Moi, vraiment, je regrette de l'avoir vu en
VO. C'est sympa l'espagnol en plus.
Ouais, c'est cool. Pour terminer cette émission, on ne pouvait pas du coup parler du Festival de Cannes sans vous faire un petit récap du palmarès dont on vous parle depuis tout à l'heure. Certains films ne sont pas encore sortis en salle, mais du coup, ça veut dire que nous, on va surveiller leur date de sortie et qu'on en reparlera probablement ici. Je ne vais pas tout vous présenter parce que le palmarès est assez grand et qu'on pourrait passer la demi-heure à ça. Je vais vous inviter à aller voir sur le site du Festival de Cannes directement le palmarès ou sur il y a plein de trucs d'infos qui le relaient. Là, on va parler des plus importantes et de celles que j'ai envie de vous parler, en fait, tout simplement. C'est moi qui décide. Au Festival de Cannes, je vous l'ai dit, il existe une compétition long-métrage, une compétition court-métrage et une compétition qui s'appelle Un certain regard qui met en lumière des films plus audacieux, plus expérimentaux, plus originaux que la moyenne. Et cette année, le prix spécial du jury a été remis à un film que moi j'attends beaucoup et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le nouveau film d'animation de Louis Clichy, Le Corset, comme par hasard, tout à fait. On en a parlé un peu dans la dernière émission. J'attends beaucoup ce film parce que j'aime bien l'animation de Louis Clichy. Et pour ce nouveau film, Le Corset, l'histoire c'est un jeune garçon habitant dans une ferme qui penche. Ouais, le speech c'est ça. Et du coup, il est obligé de porter un corset. Ça sort le 14 octobre et je pense qu'on gardera, enfin moi je garderai en tout cas un œil dessus important. Côté compétition officielle des longs métrages, on va parler du prix d'interprétation masculine qui a été décerné à deux acteurs, Emmanuel Macchia et Valentin Campagne, pour le même film, le film Coward, j'espère que je le prononce bien.
Oui, c'est bien.
Et qui est le nouveau film de Lucas Dont, exactement, Kevin.
Dont on vous parlait la dernière fois.
Exact. Après Klaus, qu'on avait adoré ici, j'ai pas trouvé malheureusement de date de sortie pour Coward, mais on vous tiendra au courant, je pense qu'on en reparlera. Kevin nous poussera à en reparler. Toujours en long métrage, le prix d'interprétation féminine a lui été partagé entre deux actrices, Virginie Efira, dont on a parlé tout à l'heure, mais pas du tout pour Histoire parallèle. Elle est avec sa co-actrice, enfin sa coéquipière dans le film, Tao Okamoto. Et c'est pour le film Soudain qui a été réalisé par, attention, mon super accent, Ryusuke Hamaguchi. Est-ce qu'on est bon au niveau de la prononciation?
Presque.
Ok, vas-y, tu le sais? Comment on dit?
Bah, Ryusuke.
Ryusuke. Ryusuke. Hamaguchi. Je suis absolument désolée pour cette personne. Je m'en excuse. Et donc ce film raconte l'histoire de deux femmes qui travaillent auprès des personnes âgées et qui s'allient et qui se battent ensemble pour la dignité et le bon traitement de ces justement personnes âgées en fin de vie. Le film sort le 12 août de cette année, donc pareil, nous garderons un œil là-dessus. Le prix du scénario a quant à lui été remis à Emmanuel Marre pour son film Notre Salut, qui nous parle d'un homme qui vit sous le régime de Vichy et qui va essayer de trouver sa place. Notre Salut, qui sort lui le 30 septembre. Et enfin, on va finir par la tant attendue Palme d'Or. La Palme d'Or, c'est le... La Palme d'Or, c'est le plus précieux, hein, le plus prestigieux prix de Cannes. C'est équivalent au meilleur film, en gros. Et pour cette 79e édition du Festival de Cannes, la Palme d'Or est attribuée à Fjord, réalisé par Christian Mugiu. Film qui sort le 19 août et ça part d'une famille très chrétienne qui va s'installer dans un fjord et dont les enfants vont être questionnés suite à des ecchymoses qui seront trouvées sur leur corps. Je le redis, Palme d'Or remise à Fjord et ça sort le 19 août. Voilà, plein de films
on
sur lesquels...
Le
ouais, je pense qu'on va en reparler de ces films tout au long de l'année qui va arriver. On garde un œil sur cette date de sortie toujours. Et c'est sur cette belle liste de récompenses qu'on va terminer cette émission. On vous invite une fois de plus à nous suivre sur nos réseaux. On vous partage plein de choses, notamment des concours. Et il y en a un qui se termine ce soir pour gagner deux places au Pâté Angers. N'hésitez pas à nous suivre, c'est clapandchat_radioG. La semaine prochaine à 19h, c'est Pop Flash. Nous, on se retrouve dans deux semaines. Ce sera le 10 juin. Ce sera toujours à 19h et ce sera toujours sur Radio G. Pour ce soir, on vous laisse avec Rudy's Back dès 20h. Ça vous fera votre petite soirée musique sur Radio G. Merci la team d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci
beaucoup.
Toi.
On se dit à bientôt et en attendant, laissez-vous embarquer par de belles histoires et vivez l'émotion sur grand écran.